Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Nous vivions selon nos désirs d'hommes livrés à eux-mêmes et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Aussi étions-nous, par nature, destinés à subir la colère de Dieu comme le reste des hommes. Mais Dieu est riche en bonté. Aussi, à cause du grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Par notre union avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités ensemble et nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. Il l'a fait afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce qu'il a manifestée en Jésus-Christ par sa bonté envers nous. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas le fruit d'œuvre que vous auriez accompli. Personne n'a donc de raison de se vanter. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu, car par notre union avec le Christ, Jésus, Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance afin que nous les accomplissions. Amen. Dernièrement, je cherchais un email dans ma boîte. J'en reçois beaucoup. Un certain nombre sont intéressants, beaucoup sont des publicités, et la plupart de ceux qui sont des publicités finissent dans le dossier des spams, c'est-à-dire le dossier où vont tous les courriers qui sont des courriers qui ne sont pas sérieux, qui ne sont pas intéressants, ou qui essayent d'arnaquer pour avoir de l'argent ou des choses comme ça. Mais ne trouvant pas le mail que je cherchais, je suis allé en désespoir de cause dans ce fameux dossier des spams pour voir si une bonne nouvelle n'aurait pas été envoyée dans le dossier des mauvaises. Et en y allant, je me suis rendu compte que je faisais bien de ne pas aller souvent dans ce dossier parce qu'en fait, il y a plein de mails qui ne servent à rien. Il y a plein de mails qui me promettent que j'ai gagné 10 000 euros, des fois plus, des fois moins. Des fois, j'ai des gens de l'Afrique qui m'envoient des mails pour me dire que on ne se connaît pas, mais j'ai de l'argent, je vais vous le donner. Bon, je crois qu'on puisse m'aimer assez pour me donner quelque chose que je n'ai pas mérité. Mais tout de même, je ne suis pas naïf. Et parfois, eh bien, nous sommes comme ça aussi avec les choses que le monde nous offre. Nous pensons qu'il y a des bonnes nouvelles quelque part, nous les cherchons un peu partout, et des fois, le monde nous apporte des nouvelles en nous disant, eh bien ça, voilà ça, ce sont de vraies bonnes nouvelles. Le diable fait passer certaines mauvaises nouvelles, toutes mauvaises nouvelles, pour des bonnes. Rappelez-vous ce qu'il a dit à Adam et Ève, surtout à Ève, « Mais tu ne mourras pas si tu manges du fruit, tu deviendras simplement comme Dieu. » Si nous avions un dossier de spam pour mettre les mensonges de Satan, il serait sans doute bien rempli. Je ne sais pas si vous receviez à l'époque, alors je pense que oui, il y a je dirais allez, 15, 20 ans, on recevait parfois un des courriers, « Ah voilà, on vous offre un cadeau extraordinaire, un stylo nul qui ne va plus écrire dans 2 jours, parce que vous êtes notre 100 000e client et vraiment vous l'avez mérité. » On a tous reçu ça le même jour parce qu'on était tous le 100 000e client, c'est fou quand même, hein. Et ma mère, elle disait toujours « Tu parles, je suis le 100 000e client de rien du tout » et elle jetait le courrier à la poubelle. Parce qu'elle disait « C'est pas vrai, c'est pas une vraie nouvelle. » Les spams et ce genre de courrier, eh bien, ça fait passer certaines nouvelles qui ne sont pas des vraies bonnes nouvelles pour des bonnes nouvelles. Et parfois, on a du mal à faire le tri entre ce qui est vraiment des bonnes nouvelles et ce qui ne l'est pas. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on puisse prendre le temps, au travers de ce texte de l'apôtre Paul, et bien de voir qu'est-ce que c'est vraiment la bonne nouvelle. Et pour le voir aujourd'hui, et bien nous allons nous arrêter sur 4 caractéristiques qui concernent notre salut. Et on va s'y arrêter pour pouvoir être encouragé dans notre marche quotidienne en tant que chrétien. On va s'arrêter sur ces vérités-là pour être encouragé quant à notre lutte contre le péché, mais aussi pour être encouragé quant à notre espoir, à notre espérance pour les choses à venir. On verra d'abord qu'on est sauvé à cause de la bonté de Dieu, à cause de son amour. Mais nous verrons que nous sommes aussi sauvés par la grâce. Sans oublier que cette grâce, eh bien, elle s'accompagne aussi du fait que nous sommes sauvés seulement par la personne de Christ et par son œuvre. Et pour terminer, nous verrons eh bien, que nous sommes sauvés pour accomplir la volonté de Dieu et ainsi pour le glorifier. L'évangile, c'est une vraie bonne nouvelle pour l'homme pécheur éperdu. Ça n'est pas une nouvelle qui finirait dans le dossier des spams ou à la poubelle. C'est une vraie bonne nouvelle pour l'homme qui est perdu. Paul, dans le premier chapitre de la lettre aux Éphésiens, il va présenter finalement le plan que Dieu a établi de toute éternité. Et il va montrer comment est-ce que ce plan que Dieu avait établi de toute éternité, il trouve finalement tout son accomplissement dans l'union avec le Christ. Et si vous prenez le temps de lire le premier chapitre de l'Épître aux Éphésiens, soulignez ou surlignez comme vous voulez, toutes les fois où Paul dit « par le Christ, dans l'union avec le Christ », et vous verrez que si on supprimait Christ de ce premier chapitre, il n'y aurait plus rien qui fonctionnerait ensemble. Et du coup, l'apôtre Paul présente ce plan, il présente l'accomplissement, et il rappelle à la fin de ce qui est pour nous le premier chapitre, toute la supériorité de Christ sur toutes les autres créatures. Christ est supérieur à tout, et verset 21 du chapitre 1, il est dit « là le Christ », c'est-à-dire là où il est maintenant, à la droite du Père, « là le Christ est placé bien au-dessus de toute autorité, de toute puissance, de toute domination et de toute souveraineté, au-dessus de tout nom qui puisse être cité, non seulement dans le monde présent, mais aussi dans le monde à venir. Dieu a placé toute chose sous ses pieds. » L'apôtre Paul a d'abord présenté ce plan de Dieu, comment est-ce que Dieu l'accomplissait, et qui était celui qui accomplissait ce plan, c'est-à-dire Jésus-Christ. Et ensuite, après, je dirais cette introduction peut-être assez tonitruante, où on voit bien toute la grandeur, la puissance, la souveraineté de Dieu, eh bien Paul va pointer le doigt finalement vers l'être humain. Et il va rappeler la situation de ceux qui sont sans Dieu. Aux deux premiers versets, il va rappeler la situation des personnes non-juives sans Dieu, sans le Christ. Il dit autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Mais il ne va pas oublier les Juifs. Au verset 3, l'apôtre Paul va décrire comment étaient eux aussi les Juifs qui ne connaissaient pas Dieu par Christ. Et il dit « nous aussi, nous faisions autrefois tous partie de ces hommes ». Paul va dresser un portrait qui, oui, est sombre, mais qui est réaliste quant à la condition de ceux qui ne connaissent pas Dieu, qui ne sont pas unis à Christ. Et l'apôtre Paul dit, je résume plus ou moins, je paraphrase et parfois je cite directement, mais il dit qu'ils sont morts, toutes ces personnes qui ne connaissent pas Dieu par Jésus-Christ, ils sont morts à cause de leurs fautes et de leurs péchés. Ils sont sans relation avec Dieu, ils ne connaissent pas Dieu. Et du coup, comme ils ne connaissent pas Dieu, comme ils sont opposés à lui à cause de leurs fautes et de leurs péchés, eh bien, ils sont sous le coup de la juste colère et du saint jugement de Dieu. Mais l'apôtre Paul dit aussi, qu'ils vivent, ceux qui ne connaissent pas Dieu par Jésus-Christ, et c'était la situation des Éphésiens et des Juifs qui étaient aussi à Éphèse, eh bien, il dit qu'ils vivent, ils vivaient, et c'est encore vrai pour ceux qui ne connaissent pas le Seigneur aujourd'hui, eh bien, ceux qui ne connaissaient et qui ne connaissent encore pas le Seigneur aujourd'hui vivent en suivant la façon de vivre du monde, selon leur propre désir d'homme sans Dieu, selon leur propre désir d'homme et de femme, hein, bien entendu, livrés à eux-mêmes. C'est-à-dire qu'ils ne répondent qu'à leurs propres désirs à eux et qu'ils ne cherchent pas à suivre les désirs de Dieu. Ils accomplissent tout ce que leur corps et leur esprit les poussent à faire. Ils sont esclaves de Satan, ce chef des puissances spirituelles mauvaises dont l'esprit agit encore aujourd'hui dans les personnes qui sont rebelles à Dieu. Il est vrai que nous pourrions dire, eh bien Paul, il est bien pessimiste et négatif cet homme. C'est faux. Paul est réaliste sur la condition des personnes qui ne connaissent pas Dieu par Christ. Ainsi, aux yeux de Paul, les hommes qui n'ont pas Christ pour Seigneur et Sauveur sont destinés à subir la colère de Dieu. Et c'est vrai qu'ils soient juifs ou non juifs. Et si peut-être on est choqué que Paul dise ça, eh bien rappelons-nous ce que Jésus lui-même a déjà dit auparavant, dans Jean 3. Les versets 16 à 18, vous pouvez soit les chercher, soit écouter simplement. Nous nous rappelons souvent du verset 16, nous l'aimons, nous le chérissons, nous le serrons dans notre cœur, parce qu'il est pour nous une raison d'espérance. Oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et qu'ils aient la vie éternelle. C'est extraordinaire cette promesse, mais il ne faut jamais oublier ce qui suit. En effet, Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour condamner le monde, mais pour qu'il soit sauvé par lui. Celui qui met sa confiance en lui n'est pas condamné, Mais celui qui n'a pas foi en lui est déjà condamné, car il n'a pas mis sa confiance en la personne du Fils unique de Dieu. Par défaut, l'être humain sans Christ est condamné. Et ce n'est que dans l'union avec le Seigneur Jésus-Christ que nous pouvons être pardonnés. Et cet état des lieux spirituels, il laisse entrevoir une vérité que Paul va développer par la suite et qu'on va voir ensemble ce matin. Cette vérité, c'est qu'aucun être humain ne peut mériter son salut, ni par sa personne, ni par ses œuvres. Et Paul va introduire la solution pensée par Dieu de toute éternité. Et il va l'introduire par ces termes qui sont extraordinairement magnifiques pour nous. Paul a dit autrefois, voilà comment vous les non-juifs vous étiez, voilà comment nous les juifs sans Christ nous étions. Et Paul va dire, mais Dieu est riche en bonté. Le cycle du péché, le cycle de la désobéissance, le cycle de la perdition peut être brisé par la puissance de Dieu au travers de Jésus-Christ parce que Dieu est riche en bonté. Dieu est riche en bonté. Et la bonté de Dieu, l'amour que Dieu a pour ses créatures, c'est le socle et la raison de notre salut. Alors je suis désolé, hein, Stony, je n'ai pas de réponse à ta question. Moi non plus, je ne peux pas te dire pourquoi Dieu m'a aimé, si ce n'est que c'est parce que Dieu est Dieu et que c'est ce qu'il a décidé. Parce qu'il est souverain, parce qu'il est généreux, et parce que être amour, c'est ce qu'il est. En toute chose, Dieu est amour. Même quand Dieu punit le pécheur, Dieu est toujours amour. Dieu ne met pas en pause certaines de ses caractéristiques selon ce qu'il fait. Il est toujours entièrement tout ce qu'il est. Dieu ne change pas, Dieu est entièrement amour. Et parce que Dieu est amour, parce que Dieu est riche en bonté, Dieu va faire quelque chose, Dieu a fait quelque chose pour que ceux qui étaient morts ne restent pas morts. Dieu a pour les pécheurs un grand amour dont il a aimé Paul et les Éphésiens. Aussi, à cause du grand amour dont il nous a aimés, versets 4 et 5, alors que nous étions spirituellement morts à cause de nos fautes, il nous a fait revivre les uns et les autres avec le Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Dieu a eu cet amour alors qu'ils étaient, comme le dit Paul, morts à cause de leurs fautes et de leurs péchés. L'amour de Dieu dans son œuvre de salut ne dépend pas des personnes ou de leurs œuvres. L'amour que Dieu a eu pour moi ne dépendait pas de moi en tant que personne. Je n'étais pas méritant du salut qui m'a été offert. Et je n'ai rien fait qui fasse que Dieu s'est dit « je ne peux rien faire d'autre que de lui accorder le salut ». Ce n'est pas ma personne ni ce que j'ai fait qui ont fait que Dieu a coché des cases et a dit « c'est bon, c'est comme pour le permis de conduire, il a assez de points pour accéder au ciel ». L'amour de Dieu dépend de Dieu seul et de tout ce qu'il est. Dieu est amour en toutes choses, dans tous ses décrets, dans tous ses choix, dans toutes ses œuvres, dans toutes ses décisions. Les Éphésiens n'avaient rien accompli qui fasse qu'ils auraient pu mériter le salut qui leur a été donné. Ils n'ont rien fait qui ait fait que Dieu ait dû les aimer. Ils n'ont pas mérité que Dieu les aime. Ils étaient encore morts à cause de leurs fautes et de leurs péchés. Ils n'étaient pas intéressés par Dieu. Dieu, c'était le cadet de leurs soucis. Mais Dieu est riche en bonté. Et Paul laisse aucun doute dans le début du chapitre 2, hein, il le dit. Les hommes sans Dieu sont vendus à Satan et ils sont donc incapables en eux-mêmes d'aspirer aux choses de Dieu. Ce n'est pas parce que quelque part ils recherchaient Dieu que Dieu s'est approché d'eux. Ils ne recherchaient pas Dieu, ils n'avaient pas d'intérêt pour Dieu particulier. Alors je ne dis pas que dans notre cheminement de conversion, il n'y a pas un moment où on commence à se poser des questions, à s'interroger et à chercher. Mais par défaut, lorsque Christ est mort et que Dieu avait préparé pour nous le salut qui est le nôtre aujourd'hui, nous n'étions pas intéressés par Dieu. Nous étions vendus au péché, vendus à Satan et esclaves de Satan. Nous n'avons rien mérité par nous-mêmes. Et cette bonté et cet amour de Dieu l'ont amené à faire passer ceux qui étaient morts à cause de leurs fautes, à cause de leurs œuvres, à la vie. Ceux qui encouraient la colère de Dieu à cause de leurs fautes, ceux qui n'étaient pas en relation avec lui, ont été ressuscités par Dieu et ont été rendus capables d'être en relation avec lui. De morts spirituellement qu'ils étaient, ils sont passés de vivants spirituellement, grâce à Dieu. C'est Dieu qui a fait ce qu'il fallait pour qu'ils puissent être en relation avec lui. Ça n'est pas l'homme qui a fait quelque chose pour qu'ils puissent être en relation avec Dieu. Et Paul dit quelque chose d'extraordinaire. Par notre union, verset 6, avec Jésus-Christ, Dieu nous a ressuscités ensemble, on vient de le dire, et il nous a fait siéger ensemble dans le monde céleste. Nous siégeons dans le monde céleste par Christ, par notre union avec lui, par le sacrifice pour lequel il a été victime expiatoire. Dieu nous a fait passer par Jésus du royaume des ténèbres au royaume de son admirable lumière. Et aujourd'hui, nous sommes citoyens des cieux. C'est en cela que nous sommes aujourd'hui assis dans les cieux avec le Christ. Parce que dans l'union inébranlable avec Christ, nous savons qu'un jour nous serons effectivement dans les cieux. Et c'est déjà une vérité qui est vraie par avance, par l'œuvre inébranlable de Jésus-Christ. Cette vérité, elle est vraie pour Paul, elle est vraie pour les Éphésiens et elle est vraie pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Si nous avons reconnu Christ comme Seigneur et Sauveur, nous étions morts spirituellement, aujourd'hui nous sommes vivants spirituellement. Nous étions dans le royaume des ténèbres, aujourd'hui nous faisons partie du royaume de l'admirable lumière de Dieu par Jésus-Christ. Et comme Christ est dans les cieux et que nous sommes unis à lui, nous siégeons déjà par avance avec lui dans les cieux. Nous avons été transférés à un tarif inimaginable du royaume de Satan au royaume de Jésus-Christ. Et cette œuvre extraordinaire qui repose uniquement sur le bon vouloir de Dieu, sur sa bonté et sur son amour, c'est ce qu'on appelle communément la grâce de Dieu. Par elle, par la grâce, Dieu accorde aux pécheurs ce qu'il n'aurait jamais été capable de recevoir par lui-même, par sa personne ou par ses œuvres, par ses actes. Ce que nous sommes aujourd'hui, nous ne le devons qu'à Dieu et à son Fils Jésus-Christ. Et s'il existe chez nous ne serait-ce qu'un seul soupçon, qu'un seul microgramme d'idée que nous avons fait quelque chose, que nous avons participé, que nous avons mérité notre salut, repentons-nous pour cette idée-là, parce qu'elle n'est pas vraie. C'est Christ qui nous a offert entièrement le salut, et personne d'autre. Nous n'avons rien fait pour cela. Paul le redit encore plusieurs fois pour que les Éphésiens ne se trompent pas. Ce n'est pas des choses que vous avez faites. Vous n'avez aucune raison de vous vanter. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Paul dit explicitement à la fin du verset 5 que c'est par la grâce que vous êtes sauvés. Et il le répète encore une fois au verset 8, voulant ainsi enlever toute prétention aux Éphésiens. Paul appuie encore son propos en disant clairement que le salut des Éphésiens ne vient pas d'eux. Il n'est pas le fruit, c'est-à-dire il n'est pas la conséquence d'œuvres que les Éphésiens auraient accompli. Mais Paul ne parle pas que dans ce sens, je dirais entre guillemets négatif, de dire « vous n'avez rien fait ». Paul, s'il dit ces choses-là, c'est pour montrer aussi que le salut au bénéfice duquel on est, c'est un cadeau extraordinaire de la part de Dieu et de Jésus-Christ. Paul, en rappelant le salut par la grâce, il rappelle également que, oui, la foi et le salut, ce sont des dons de Dieu, ce sont des cadeaux que Dieu nous a fait généreusement. Et si on avait dû faire quelque chose pour les recevoir, ça ne serait pas un cadeau. À mon anniversaire, je ne paye pas moi-même pour recevoir les cadeaux qu'on m'offre, heureusement. Sinon, ce serait triste. Mais parfois, nous nous disons que nous devons payer quelque chose pour recevoir ce cadeau que Dieu veut nous faire. Par là, je fais une parenthèse rapide, je n'entends pas qu'une fois que nous sommes sauvés, nous devons vivre n'importe comment. Ça n'est jamais mon propos, et ça ne le sera jamais, et si un jour ça l'est, faites-le savoir à l'AEI, parce que je ne dois pas rester votre pasteur si je vous enseigne un jour un autre évangile que celui-là. Mais nous viendrons à ces choses-là plus tard. Ainsi, tout en enlevant toute prétention aux Éphésiens, Paul montre une fois encore l'extrême bonté et la grandeur de l'amour de Dieu. Il donne tout à ceux qui ne peuvent rien lui rendre et qui n'auraient jamais rien pu mériter par eux-mêmes. Dieu nous a accordé son salut malgré la noirceur et la profondeur de notre péché, à cause de sa bonté et par sa grâce, parce qu'il l'avait décrété de toute éternité. Je relis avec vous, écoutez simplement. Loué soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est Éphésiens 1, verset 3. Car il nous a comblés des bénédictions de l'Esprit dans le monde céleste qui toutes sont en Christ. En lui, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Voilà ce que, dans sa bonté, il a voulu pour nous, afin que nous célébrions la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son Fils bien-aimé. En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons été délivrés et nous avons reçu le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse et il l'a répandue sur nous avec surabondance en nous donnant pleine sagesse et pleine intelligence pour que nous connaissions le secret de son plan. Ce plan, il l'a fixé d'avance dans sa bonté en Christ, avant qu'on se convertisse, avant que le monde existe, avant qu'on vienne au monde. Dieu avait déjà décidé et choisi de nous sauver. Nous n'avons rien fait pour cela. Et si c'est Dieu qui est aux commandes de toutes choses pour notre salut, eh bien alors ce salut, on ne le reçoit pas comme on veut. Il ne s'obtient pas selon nos désirs ou nos critères d'accession à Dieu. Nous sommes sauvés seulement par la personne de Christ et par son œuvre. Ce salut par Christ, c'est Dieu qui l'a décidé ainsi, comme nous venons de le lire, bien avant que les fondations du monde aient été posées, bien avant que nous ayons existé, bien avant peut-être que vous soyez venus ici et que vous ayez entendu l'évangile. Paul le dit au verset 4, je le relis encore une fois, que ce verset puisse nous faire du bien. En lui, en Christ, bien avant de poser les fondations du monde, il nous avait choisis pour que nous soyons saints et sans reproche devant lui. Paul donne une place prépondérante à l'union avec le Christ dans ses propos aux Éphésiens. Il montre que s'il n'y avait pas l'union avec le Christ, il n'y aurait rien. Il n'y aurait absolument rien. Et il l'a déjà fait dans le premier chapitre. Il a déjà montré que tout était en Christ, dans l'union avec lui, en Jésus. Au verset 5, l'apôtre Paul nous dit que Dieu nous a fait revivre avec Christ. Au verset 6, nous sommes déjà ressuscités et nous siégeons déjà dans les cieux par notre union avec Jésus-Christ. C'est déjà vrai, c'est déjà effectif. Il nous a fait siéger. Ce n'est pas un futur, il ne dit pas « il nous fera siéger ». Il nous a fait siéger, c'est fait, c'est acquis maintenant. Par Jésus-Christ, c'est ok, c'est bon. On n'a pas à douter de ça. Nous siégeons auprès du Seigneur, pas physiquement encore, mais par la promesse que nous sommes unis à Christ, nous sommes déjà auprès du Seigneur. Nous siégeons au travers de Christ et un jour, nous serons dans la présence de Dieu pour l'éternité physiquement, pour toujours. Aujourd'hui, nous attendons cette réunion avec Dieu. Mais ce que Christ a fait est déjà vrai aujourd'hui. Au verset 7, Dieu a témoigné de l'extraordinaire richesse de sa grâce par Jésus-Christ. C'est ce qui montre sa bonté envers nous. Et au verset 10, eh bien Paul nous rappelle que ce que nous sommes, nous le devons à Dieu par notre union avec Jésus-Christ. Vous remarquerez à quel point Paul braque les projecteurs sur Dieu, le Père et sur son Fils. Et à quel point il laisse l'être humain, les Éphésiens, à côté. C'est Dieu, le Père et son Fils Jésus-Christ qui sont tous deux responsables de notre salut, de ce que nous sommes, qui sont responsables de notre espérance. Jésus s'est présenté aux hommes lors de son ministère terrestre comme étant celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et il a précisé que personne ne pouvait aller vers Dieu sans passer par lui. Tout chemin qui promet qu'on peut accéder à Dieu ou au salut sans passer par Jésus, c'est un mensonge. Parfois, les chemins que nous empruntons pour aller jusqu'à Jésus sont différents. Si nous étions 2, 3 ou 4 à donner notre témoignage, nous verrions que tout n'est pas pareil. Mais nous verrions que tous, à un moment, nous sommes venus à Jésus-Christ. Tous, à un moment, nous sommes venus à Jésus-Christ, parce que le salut n'existe pas sans Jésus-Christ. Christ est le seul qui soit capable, par sa mort et par sa résurrection, de nous rendre dignes de nous tenir devant Dieu. Jésus-Christ est le seul qui puisse faire que, lorsque nous nous présenterons devant Dieu, Dieu nous dira « Tu es pardonné, tu es sauvé. Tu resteras avec moi pour l'éternité. Ton péché ne te condamne plus. » Tu peux te tenir devant moi grâce à l'œuvre de Christ. Tu es digne de rester devant moi, non pas par toi-même, non pas par tes choix, non pas par tes actes, non pas par tes paroles, tu n'as rien mérité, mais par Jésus-Christ qui a tout mérité pour toi. Si nous pouvons appeler Dieu Père, c'est grâce à Christ. Si nous pouvons regarder l'avenir avec foi, avec espérance et avec joie, c'est grâce à Christ. Si mon salut dépendait de ma personne, je serais déjà perdu. Martin Luther, le réformateur, disait « Si nous pouvions perdre notre salut, nous l'aurions tous déjà perdu. » Et je pense qu'il a raison. Je sais qu'il y a des textes qui peuvent nous poser question dans l'Écriture. Je n'y viendrai pas aujourd'hui, mais j'y viendrai. Parce que je comprends les questions qui peuvent parfois venir. Mais si nous donnons ne serait-ce qu'un milliardième de pourcent de responsabilité à notre personne quant à notre salut, alors nous sommes perdus. Si le salut n'est pas à 100% par Jésus-Christ, alors nous ne sommes pas sauvés. Nous devons abandonner toute prétention à une quelconque action qui nous sauverait, à un quelconque sentiment, à une quelconque idée que nous avons participé à notre salut. Le Seigneur est venu me chercher un soir dans ma chambre. Je n'avais rien prévu, je n'avais pas vécu une journée qui était meilleure que les précédentes. Je suis allé voir ma maman et puis j'ai parlé avec elle et puis elle m'a redit « Mais tu sais que tu peux recevoir le salut ?» Elle m'a réexpliqué, je pense que je l'ai entendu des centaines de fois, hein, l'histoire du salut. Je la connaissais, mais ça ne voulait rien dire pour moi pratiquement. Et ce soir-là, j'ai juste prié avec ma maman. Mais c'était suffisant. Je n'avais pas été meilleur. J'ai juste reconnu l'évidence. C'était que Christ qui pouvait me sauver. C'était la seule chose que je pouvais faire. C'était dire à Christ, je le reconnais, que je ne peux pas me sauver et qu'il n'y a que toi qui peux le faire. Et en entendant ça, peut-être que ça vous gêne, quelque part. Parce que vous vous dites peut-être, mais j'ai quand même eu la foi, j'ai quand même cru, j'ai quand même accepté Jésus-Christ. Sachez que je n'aime pas cette expression. Jésus-Christ, personne dans la parole ne nous demande d'accepter, mais de reconnaître. Un jour, je développerai cette idée de pourquoi je pense que c'est important de dire que nous avons reconnu Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Mais je comprends ce que ça veut dire quand on dit « j'ai accepté ». Mais peut-être que vous dites « mais j'ai quand même fait quelque chose, j'ai quand même cru, j'ai eu la foi, j'ai choisi de suivre Jésus ». Écoutons ce que Paul a dit à Timothée quand il lui a écrit. En 1 Timothée 1, les versets 13 à 14, vous pouvez simplement écouter. Paul a parlé de la façon dont il a persécuté les chrétiens. Et il a dit qu'il les a persécutés parce qu'il n'avait pas le Christ. Il n'était pas en relation, en communion avec Dieu. Du coup, il ne comprenait pas ce que Dieu voulait faire. Et du coup, il a persécuté les chrétiens. Et il dit, mais il, c'est-à-dire Dieu, Dieu a eu pitié de moi parce que j'agissais par ignorance, puisque je n'avais pas la foi. Dans la surabondance de sa grâce, notre Seigneur a fait naître en moi la foi et l'amour que l'on trouve dans l'union avec Jésus-Christ. Paul, il dit que même sa foi, il n'a pas pu la créer lui-même. C'est Dieu qui l'a fait naître dans son cœur, c'est Dieu qui l'a mise dans son cœur. Même quand on croit, on n'est pas capable de croire tout seul. C'est Dieu qui fait qu'on peut croire. On est entièrement dépendant de Dieu pour notre salut. Alors oui, on est responsabilisé par Dieu. J'ai mis devant toi la mort et la vie. Choisis la vie afin que tu vives. On est responsabilisé par Dieu. On est responsable du choix qu'on a fait. Oui, moi j'ai engagé toute ma responsabilité quand j'ai confessé à Christ qu'il était mon sauveur. Mais je n'ai pas été capable de le reconnaître tout seul. Il a fallu que Dieu me touche à un moment précis pour que je plie le genou et que je dise « je reconnais, je comprends, je reconnais que Christ est mon sauveur ». Même notre foi, nous la devons à Dieu. Et je crois, et ça me rend triste, que parfois on est tellement attaché à l'envie d'apporter quelque chose à notre salut que finalement on ne vit pas réellement la joie et la liberté d'avoir été sauvé sans avoir eu rien à faire. Et aujourd'hui, des choses à faire, il nous en reste plein. Le Seigneur veut qu'on vive une vie conforme à ce qu'on est devenu. On n'a peut-être rien pu faire, on n'avait peut-être rien à faire pour être sauvé, mais maintenant qu'on est sauvé, le Seigneur attend de nous une conduite droite et juste. Et ça, c'est du travail. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau que de considérer notre salut en sachant que tout nous a été généreusement offert et que puisque tout nous a été généreusement offert alors que nous étions encore des pécheurs, eh bien dans ce cas-là, rien ne nous sera repris après, parce que nous ne serions peut-être pas assez dignes. Nous avons reçu le salut. Le salut s'est fait chair pour nous en Jésus-Christ. Christ a été percé sur le bois pour nous, alors que nous n'étions pas dignes de cela. Alors aujourd'hui, nous ne serons jamais vus indignes du salut, puisque c'est Christ qui l'a accompli pour nous. Et on peut être dans la joie, une joie immense, comme je crois que c'est Samuel qui a entonné le chant tout à l'heure. On peut être dans cette joie immense, cette vraie joie, ce repos éternel et inébranlable concernant notre avenir et la certitude de notre salut. Écoutez ces paroles que Jésus a rapportées pour nous dans l'évangile de Jean au chapitre 10, au verset 27 à 29. Jésus dit « Mes brebis connaissent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. Jamais elles ne périront et personne ne pourra les arracher de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous et personne ne peut arracher qui que ce soit de la main de mon Père. Vous avez le droit de douter de mes paroles, mais nous ne devons pas douter de l'Évangile. Nous ne devons pas douter des paroles du Christ. Jésus-Christ a promis que ceux qui sont ses brebis, elles le connaissent, elles le suivent. Il a donné sa vie pour elles et personne ne peut les arracher de sa main ni de celle du Père. Nous sommes sauvés une fois pour toutes. » Il y a plein de passages que je pourrais citer pour étayer ça. Mais je pense que vous comme moi, on n'a pas 2 heures pour la prédication. Enfin, moi, je pourrais tenir 2 heures. Vous, je ne pense pas. Et je ne vous demande pas de le faire. Du coup, je vais citer qu'un seul verset qui peut encore peut-être nourrir un peu plus cette assurance. L'apôtre Paul, quand il écrit aux Romains, c'est un traité de théologie, les 8 premiers chapitres de l'Épître aux Romains. Voilà ce qu'il dit. « La foi sera aussi portée à notre crédit. » Il a porté de la foi. Il a parlé juste avant de la foi d'Abraham qui avait été portée à son crédit. Et il dit « Car la foi aussi sera portée à notre crédit. » Avant, nous n'avions pas la foi, notre compte était débiteur vis-à-vis de la foi. Aujourd'hui, notre compte est créditeur toujours plus vis-à-vis de la foi grâce à Jésus. La foi sera aussi portée à notre crédit, à nous qui plaçons notre confiance en celui qui a ressuscité des morts Jésus-Christ. Il a été livré pour nos fautes et Dieu l'a ressuscité pour que nous soyons déclarés justes. Nous sommes justes. Aujourd'hui, quand Dieu nous considère, Dieu ne considère pas ce qu'il reste encore de choses qui doivent être transformées. Dieu considère notre statut à cause de notre union en Christ. Et notre statut à cause de notre union en Christ, c'est que nous sommes justes. Nous sommes assis dans les cieux. Nous sommes passés des ténèbres à la lumière. Nous sommes une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Et elles continuent chaque jour de devenir nouvelles dans notre vie. C'est la sanctification. Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, par Jésus-Christ, nous avons eu accès au moyen de la foi, à ce don gratuit, à ce cadeau gratuit de Dieu dans lequel nous nous trouvons désormais établis. On est ancré dans cette réalité. Et notre fierté se fonde sur l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Un jour, nous aurons part à la gloire de Dieu. Pas à cause de nous-mêmes, pas à cause de nos œuvres, pas parce qu'on aura fait des choses qui méritent, mais grâce à Christ. Ce Christ qu'on aura reconnu comme notre Seigneur et notre Sauveur grâce à la foi que Dieu lui-même a fait naître dans notre cœur. Nous sommes tous dépendants de Dieu. Ainsi, seul Christ peut vraiment nous donner le salut, d'une manière définitive. Il n'existe aucun autre moyen de l'obtenir qu'en passant par Jésus-Christ, parce qu'il est le seul chemin vers Dieu. Et s'il nous a sauvés, c'est pour accomplir la volonté de Dieu et pour le glorifier. Ce que nous sommes aujourd'hui devant Dieu, le statut qui est le nôtre à ses yeux, c'est à Dieu même que nous le devons. C'est extraordinaire. Je ne sais pas si vraiment nous comprenons la profondeur de ces choses-là. Moi-même, le premier, je pense que je ne comprends pas tout à fait. Parce que les choses de Dieu nous dépassent. C'est trop grand pour moi de comprendre pourquoi moi, qui étais mort et moisi, pourri par le péché, Dieu a décidé un jour de se révéler à moi, de me donner la foi nécessaire pour croire, de croire et de bénéficier de ce salut. Mais je crois que, même si on ne peut pas tout comprendre de pourquoi Dieu a fait ça, ce que nous pouvons comprendre, c'est comment nous pouvons répondre aujourd'hui à cet amour. Dieu nous a sauvés non pas pour qu'on vive comme autrefois. L'apôtre Paul le dit, hein, autrefois vous étiez morts. C'est le passé. Mais Dieu est riche en bonté. Dieu ne nous a pas sauvés pour qu'on vive comme autrefois, comme avant. Dieu nous a sauvés de l'esclavage du péché pour que notre vie, elle témoigne du changement qu'il a opéré par Jésus-Christ. Avant, tous les hommes vivaient à la manière du monde, selon leurs propres désirs, comme nous le disions au début de cette prédication. Mais aujourd'hui, c'est Dieu qui est notre maître. C'est à Dieu que nous appartenons. Nous sommes esclaves du Christ. Nous travaillons pour lui. Dieu est notre maître et notre façon de vivre et nos œuvres sont elles aussi transformées par le fait que nous avons changé de maître. Si on change de travail, de patron, et qu'on change en même temps de poste, par exemple, eh bien on ne va pas faire les mêmes choses qu'on faisait avant. Alors je précise volontairement qu'on change de poste, parce que si on garde un poste similaire, il y a des chances qu'on fasse la même chose. Mais quand on change de patron, eh bien c'est le nouveau patron qui a le droit de nous demander des comptes. Moi, mon ancien patron, il ne m'appelle jamais pour me demander qu'est-ce que je fais. Hein. Je suis pasteur, il s'en fiche maintenant de ce que je fais. Ce n'est pas son problème à lui. Hein. Il ne s'y intéresse pas à ça. Satan, c'était le vieux patron. On était en CDI avec lui. Un jour, on a brisé le CDI. Et on a dit, je m'engage maintenant pour une durée indéterminée, c'est-à-dire éternelle, avec Dieu. Et du coup, puisque Dieu est notre nouveau maître, notre patron, entre guillemets, eh bien, nous devons travailler comme lui veut que nous travaillions. Dieu a fait de nous de nouvelles créatures afin que nous soyons aptes à accomplir les œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour nous. Je ne sais pas si on se rend compte, là encore, de la grandeur et de la profondeur de ce que ça veut dire. Dieu nous a sauvés généreusement. Il a donné Jésus-Christ quand on était encore mort dans notre péché. On ne pouvait pas croire tout seul, alors Dieu a fait naître la foi dans notre cœur. On a reconnu Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Maintenant, on dépend de Dieu et de Dieu seul. Du coup, notre manière de vivre change dans nos actes. Plus ou moins vite, selon les domaines, mais elle change. On est radicalement une autre créature. Et comme le disent les épîtres de Paul, eh bien, on enlève les habits de l'homme ancien et on revêt les habits de l'homme nouveau. Et en plus, l'apôtre Paul nous dit, mais Dieu, il ne s'est pas arrêté là. Dieu, en plus, il a créé pour vous des œuvres bonnes pour que vous les accomplissiez. Dieu, il a tout fait du début à la fin. Pour nous. Il aurait très bien pu dire, maintenant je vous ai sauvé, maintenant, ben voilà, faites des œuvres bonnes, hein, mais voilà, par vos forces, débrouillez-vous. Il nous a donné l'Esprit Saint pour qu'on puisse accomplir ces œuvres bonnes. Nous ne pouvons pas continuer à faire des œuvres mauvaises, nous ne pouvons pas continuer à vivre comme nous vivions avant, parce que notre maître, notre patron a changé. Notre personne a été transformée. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, on n'a peut-être rien fait pour mériter notre salut, mais aujourd'hui, Dieu nous demande de vivre d'une manière conforme à tout ce qu'il a fait pour nous. Et ça, c'est du travail. Ça demande plein de choses à faire. Et Dieu est encore là avec nous. Et regardons rapidement quelques caractéristiques de ces œuvres bonnes. C'est Dieu qui nous rend capables de les accomplir. Parce que ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Et c'est lui qui a créé ces œuvres. Donc il ne va pas nous demander d'accomplir tout seul, par nos propres forces, quelque chose qui a été divinement créé par Dieu. Les œuvres bonnes que Dieu veut qu'on accomplisse, elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses. Il nous a créés pour une vie qui est riche d'œuvres bonnes. Et si vous avez fait attention, le thème de la richesse, il revient partout dans ce chapitre 2. Au verset 4, Dieu est riche en bonté. Il démontre l'extraordinaire richesse de sa grâce au verset 7. Et au verset 10, il nous a créé pour une vie qui est riche d'œuvres bonnes. La vie avec Dieu, ce n'est pas une vie de misère. Dieu ne nous a pas juste donné le petit truc qu'il fallait juste pour être sauvé, et puis ensuite, bon, bof quoi. Dieu est riche en toutes choses dans ce qu'il fait pour nous. Dieu nous a créé pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées à l'avance pour qu'on les accomplisse. Et ces œuvres bonnes, elles s'opposent aux œuvres mauvaises qu'on accomplissait précédemment. Dieu a transformé toutes choses et on a totalement changé de direction dans la façon de vivre notre vie. Il y a des domaines où on apprend encore à changer de direction, à abandonner les vieilles habitudes, les vieilles manières de faire. Tout n'est pas fait en un clin d'œil tout de suite. Les choses se font dans la durée. La sanctification, c'est de notre conversion jusqu'au moment où on sera devant le Seigneur, et là, on sera semblable à l'image du Christ. Mais aujourd'hui, notre vie, notre statut, notre position, ce que nous sommes, est entièrement différent de ce que nous étions avant. Et c'est parce que tout est entièrement différent grâce à Dieu que nous sommes appelés à lutter contre notre péché. Parce que notre péché n'a rien de normal dans notre vie d'aujourd'hui. Et nous avons bien vu combien Dieu a été bon envers nous, combien sa grâce a été généreuse. Est-ce que nous pensons que Dieu ne nous aidera pas aussi à progresser? Et même si nous tombons, que nous nous relevons, Dieu nous aidera à nous relever. Il a créé des œuvres bonnes pour qu'on les accomplisse. Il ne nous regarde pas du haut des cieux nous dépêtrer et dire « Ben, il y a plein d'œuvres bonnes, hein, fais un effort. Pourquoi tu tombes ? Debout, allez. » Il vient, il nous relève lui-même et il nous aide. Il n'y a pas de piège avec Dieu. Il a créé ses œuvres bonnes et on est capable d'arriver à les accomplir par l'œuvre de Dieu en nous. Et si peut-être certains vous êtes découragés parce que vous avez l'impression que vous n'avancez pas, qu'il y a toujours des trucs, des choses qui traînent, il y a des choses qui n'avancent pas, etc. Continuez de travailler. Parce que le fait que nous travaillons, que nous luttons contre le péché, c'est la preuve qu'on est en route pour être transformé. Si on ne luttait pas, ce serait anormal. Les œuvres bonnes, c'est des œuvres qui découlent du fait qu'on appartient à Dieu. Elles sont en accord avec ce qu'on est devenu en Christ et on peut les accomplir. Elles sont préparées d'avance. On a vu qu'on avait été sauvés, que Dieu par avance avait déjà décidé de nous sauver. Mais il n'a pas juste décidé par avance de nous sauver, il a aussi décidé par avance de la vie qu'on aurait une fois qu'on serait sauvés. Il a créé ses œuvres pour qu'on les accomplisse. Et c'est ce que nous devons poursuivre. Nous devons chercher à accomplir ces œuvres bonnes pour glorifier Dieu. Il y a énormément de passages de l'Écriture qui disent que si on porte des fruits, si on a une vie qui est conforme à ce que Dieu veut, eh bien le monde aussi autour de nous le verra. Et ils rendront un jour gloire à Dieu pour ces choses-là. Peut-être pas tout de suite, mais un jour ils rendront gloire à Dieu. Dieu nous rend capables de les accomplir. Et s'il y a des domaines où on se rend compte qu'on n'arrive pas, que c'est dur, qu'il y a des luttes, des combats, c'est normal, on continue de lutter. Et surtout, on lutte en demandant au Seigneur de nous rendre vainqueurs. Ça ne veut pas dire que le lendemain matin, je vais forcément être vainqueur. Peut-être. Des fois, Dieu délivre directement. Mais ce qui est vrai, ce qui est sûr et ce qui est certain, c'est que si nous demandons à Dieu de l'aide et que nous continuons de lutter contre ce qui n'est pas bon dans notre vie, Dieu est un Dieu qui est bon envers nous et qui nous aidera. La preuve, c'est qu'il a tout fait pour nous alors qu'on était morts dans nos péchés et livrés, vendus à Satan. Alors s'il a tout fait pour nous à ce moment-là, pourquoi est-ce que maintenant que nous lui appartenons, il arrêterait de nous aider ? Ça n'a aucun sens de penser ça. Dieu serait un Dieu bien étrange s'il était comme cela. Ses œuvres, elles sont réalisables pour la gloire de Dieu et c'est ce qu'on doit poursuivre, c'est ce qu'on doit rechercher dans notre vie. Que notre vie, que nos œuvres, les choses que nous faisons, elles soient plus comme celles qu'on faisait avant, mais qu'elles soient des œuvres nouvelles qui viennent du Seigneur, pour que Dieu soit glorifié. Et quand on dit ça, c'est-à-dire que quand des personnes extérieures à nous-mêmes, des personnes qui ne sont pas nous-mêmes, elles vont regarder ce qu'on fait, comment on est, comment on parle, la manière dont on agit, et les personnes vont dire « Ah, mais ça, c'est à cause de Dieu. » C'est ça des œuvres qui glorifient Dieu, c'est quand les gens nous regardent et qu'ils disent « Ça, c'est grâce à Dieu. » Ainsi, Dieu a accompli pour nous, en Jésus-Christ, une œuvre extraordinaire. De pécheurs que nous étions, vendus à nos désirs coupables, prisonniers du péché et de Satan, Jésus nous a rendus libres à cause de l'extraordinaire richesse de sa bonté. Et cette richesse, elle n'était pas juste pour le salut, elle est encore pour maintenant. Dieu est encore extraordinairement riche en bonté pour nous. Il nous a offert par grâce, de façon généreuse, imméritée, le salut en Jésus. Et de cette manière-là, il a réorienté toute notre façon de vivre. Il a fait ça afin qu'aujourd'hui, on puisse accomplir dans notre vie les œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance pour nous, pour qu'on les accomplisse. La norme de notre vie, aujourd'hui, c'est d'accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Et si on peut les accomplir, c'est parce que Dieu nous en rend capables. Il crée en nous le vouloir et le faire. Et c'est ce que Paul dit aux Éphésiens. Et il nous rend ainsi capables de porter des fruits qui sont dignes de notre union avec le Christ. J'aimerais vous laisser pour terminer deux sujets de prière Et vous me connaissez maintenant, je vous laisse un défi aussi. Quelque chose de pratique à faire. Tout d'abord, j'aimerais que vraiment dans nos prières, nous puissions louer Dieu pour l'extraordinaire œuvre de salut qu'il a accomplie par Dieu en Jésus-Christ. Que nous puissions lui dire merci pour sa grâce, pour ce cadeau gratuit qu'il nous a fait quand nous ne pouvions rien mériter. Que nous le remercions pour l'extrême richesse de sa bonté envers nous. Qu'on le remercie d'avoir accompli pour nous ce que nous, nous n'aurions jamais pu accomplir pour nous-mêmes. Que dans nos prières, nous puissions aussi glorifier Dieu pour le salut qui a été acquis une fois pour toutes en Jésus, par notre foi en lui, cette foi même qui nous vient de Dieu. Remercions Dieu pour la foi qu'il a fait naître en nous, afin qu'on puisse croire au Seigneur. Rendons gloire à Dieu pour la puissance et la suffisance du sacrifice de Christ, pour notre salut. Et demandons à Dieu de renouveler chaque jour en nous le vouloir et le faire, le désir de faire les œuvres bonnes et ce qui nous est nécessaire pour aussi les faire dans la pratique. Que nous lui demandions de nous renouveler avec cet objectif-là par son esprit. Et que notre désir, ce soit vraiment d'accomplir les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour nous. Et voici le défi, c'est un défi simple. Enfin, pas sûr. Je constate que parfois on est relativement pessimiste dans notre avancée avec le Seigneur. On a souvent, alors c'est peut-être parce qu'on est français, je ne sais pas, hein, mais on a souvent très tendance à voir le verre plutôt vide plutôt que le verre plein. Et on a des fois tendance à voir toutes les choses qui vont encore pas, et on oublie celles que Dieu a déjà changées. Les choses qui ne vont pas encore aujourd'hui, on doit les garder à l'esprit, parce que c'est des choses sur lesquelles le Seigneur veut qu'on travaille. Mais en même temps, il ne faut pas qu'on oublie tout ce que Dieu a déjà réalisé en nous. Et le défi, c'est ça. Je vous invite que chacun d'entre vous, vous puissiez prendre un temps particulier. Après, dans la façon de faire, vous pouvez voir ce qui correspond le mieux à votre personnalité. Mais que vous puissiez regarder avec toutes les années de conversion que vous avez, alors certains vous en avez des dizaines, hein, et c'est génial de voir que vous êtes toujours vraiment fidèle avec le Seigneur. Et de dire, Seigneur, maintenant je vais faire la liste, pas simplement de voilà, ça c'est toutes les choses que je faisais avant et que je ne fais plus maintenant, mais aussi de dire, voilà comment j'étais avant et comment je suis maintenant par l'œuvre du Seigneur. Pour qu'on puisse dire aussi, Seigneur, ça c'était tout ce que j'étais, tout ce que je faisais avant. Maintenant que je te connais, tu m'as amené jusque-là et voilà maintenant comment je suis et comment je vis. Parce que je crois que des fois, on a besoin de s'arrêter, de regarder dans le passé ce que Dieu a fait pour nous et de dire à Dieu, je te remercie pour tout ce que tu as déjà accompli. Parce que si tu as déjà accompli tout ça, tu vas accomplir encore plus. Je ne dis pas qu'il ne faut pas considérer les choses qui restent dans notre vie et qui ne sont pas bonnes comme étant pas importantes. Hein. C'est absolument pas ce que je dis. Mais pour nous encourager dans cette lutte contre ces choses qui demeurent encore et qui ne sont pas bonnes, on a besoin de se rappeler de ce que Dieu a déjà fait. Pourquoi vous pensez que Dieu a donné les fêtes, qu'on appelle des fois les fêtes du souvenir aux Israélites ? Parce qu'ils avaient besoin de se rappeler de ce que Dieu avait déjà fait. Et un des reproches que Gédéon fait à l'ange du Seigneur, quand l'ange du Seigneur vient, c'est qu'il dit « Mais si Dieu il était vraiment avec nous, on ne serait pas dans cette situation. Parce qu'on sait ce qu'il a fait pour ceux qui nous ont précédés. » Rappelons-nous de ce que Dieu a fait précédemment pour nous, pour qu'on puisse continuer de lutter et d'avancer, de lutter contre le péché et d'avancer avec la certitude qu'un jour nous aurons part, comme l'a dit l'apôtre Paul aux Romains, nous aurons un jour part à la gloire de Dieu. Nous serons semblables à l'image du Fils, nous vivrons toute éternité avec Dieu, nous serons assis avec Dieu, physiquement nous serons auprès de lui. Alors prenons le temps de faire ça cette semaine, de nous arrêter. Et de dire, Seigneur, ça c'était tous les traits de caractère que j'avais avant, ça c'était les mauvaises choses que je pensais, les mauvaises choses que je faisais, t'as enlevé toutes ces choses-là. Et à la place, t'as mis toutes ces choses-là. Et louons Dieu pour ce qu'il a fait. Dieu est tellement bon pour nous. N'oublions pas cette bonté. Et je le répète encore une fois, je sais qu'il y a des textes dans l'Écriture qui parfois peuvent nous poser question. Je les aborderai, nous y viendrons. Mais ne nous privons pas de louer et de célébrer le Seigneur qui nous montre que c'est lui qui a tout fait en Jésus-Christ. Que nous puissions encore le louer et le célébrer chaque jour pour cela. Je vais prier encore pour chacun d'entre nous. Notre Dieu, notre Père, l'œuvre que tu as accomplie pour nous est une œuvre extraordinaire. Alors que nous étions même pas encore vivants pour nous qui sommes ici, tu avais déjà choisi de nous sauver. Alors que nous n'étions même pas encore nés, alors que nous n'existions pas encore sur cette terre, tu as envoyé ton Fils Jésus-Christ pour que nous aussi un jour nous soyons au bénéfice de son salut. Père éternel, je te remercie à cause de la richesse de ta bonté. Je te remercie pour la richesse de tout ce que tu nous témoignes chaque jour. Je te remercie parce que c'est d'une manière gratuite, généreuse, que tu nous as donné le salut. Tu nous as tout donné en Jésus-Christ. Et aujourd'hui, en réponse à ce salut, à ce don, à ce cadeau que tu nous as fait, nous voulons te dire que nous voulons continuer jour après jour encore de marcher avec toi selon ta volonté. Nous voulons accomplir ces œuvres bonnes que tu as préparées d'avance pour nous, pour qu'on les accomplisse. Nous voulons continuer de nous délecter de ce salut que tu nous as offert. Nous ne voulons pas devenir mous dans notre salut en nous disant « Mais Dieu a tout fait pour moi, ça suffit. » Mais nous voulons vivre d'une manière digne, d'une manière digne de tout ce que tu as fait pour nous. Nous te prions pour que tu nous aides à nous dévêtir de cet homme ancien et à nous revêtir de cet homme nouveau. Que tu nous aides à lutter contre le péché, pour que le péché qui est encore dans notre vie, que nous savons, que nous connaissons, pour qu'il disparaisse. Et qu'un jour, lorsque nous serons auprès de toi, lorsque nous serons passés devant toi et que tu nous auras déclaré juste pour toute éternité, lorsque le jugement sera venu, lorsque nous serons auprès de toi, auprès du Fils et auprès du Saint-Esprit pour toute éternité, eh bien que nous puissions à ce moment-là être vraiment rendus conformes à l'image de Jésus-Christ. Que toute notre vie tende à être toujours plus proche de l'image du Christ. Je n'ai pas de mots pour te dire assez merci pour tout ce que tu as fait pour moi. Et je te prie simplement que tu mettes dans nos cœurs à chacun cette certitude que nous sommes sauvés grâce à Christ. Que cette certitude soit inébranlable et que nous ne nous laissions pas avoir, Seigneur, par le fait que peut-être nous pourrions mériter ou nous maintenir dans notre salut à cause de nos propres œuvres. Parce que si tu nous as sauvés au moment où nous n'avions rien à t'apporter, eh bien tu vas nous conserver ce salut, maintenant. Parce qu'aujourd'hui, nous n'avons toujours rien à t'apporter qui mérite le salut. Nous ne pouvons que vivre une vie qui est conforme à ce que tu attends parce que tu nous en rends capables. Sois glorifié, Père éternel, pour tout ce que tu as déjà fait en nous et pour tout ce que tu vas encore faire pour nous et en nous. À toi, à Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, et au Saint-Esprit reviennent toute la gloire dans notre vie. Amen.